Bien bonsoir, bienvenue dans cette session des GECO consacrée à un dialogue entre juristes et économistes sur le thème suivant, quelles limites doit-on donner à la propriété privée ? Alors je laisserai chacun de mes collègues, puisque nous sommes collègues, eux économistes et moi juristes, s'exprimer sur le sujet. Et puis vous savez que vous pouvez poser des questions, je crois que vous avez le mode d'emploi, à travers une petite tablette à travers laquelle on essayera de répondre. Je commencerai par passer la parole à notre collègue Alain Tranois, puis à notre collègue Delatte, et puis nous discuterons un petit peu tous les trois de manière improvisée. Je voudrais féliciter, je crois qu'il y a des lycéens et des étudiants qui sont là, alors non pas que les plus âgés, les seniors ne sont pas les bienvenus, mais je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ces sujets. Je vous en félicite, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de ne pas être ni trop technique, ni trop général. Nous avons une heure devant nous. Alors, le rôle du juriste, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout très simplement de poser le débat, en fait. Puisque la propriété est une notion économiste, je ne reviendrai pas sur cette célèbre phrase de Proudhon que vous avez probablement tous entendue. La propriété, c'est le vol. Vous la connaissez probablement tous, mes collègues avaient peut-être prévu d'en parler, d'ailleurs. Mais au-delà de la propriété, c'est le vol, depuis 1789 et la Révolution française, la propriété est avant tout, comme le dit l'article 17 de la Constitution française, de la Déclaration des droits de l'homme, plus exactement, un droit inviolable et sacré. Et ce droit de propriété a été protégé par les révolutionnaires dans la Déclaration de 1789, non pas pour protéger les riches ou le droit de propriété, mais pour protéger le citoyen contre l'arbitraire de l'État et contre l'arbitraire du pouvoir royal qui pouvait s'arroger le droit de confisquer la propriété privée comme bon le semblait. Et donc c'est au titre des droits inviolables et sacrés, des droits naturels, un droit constitutionnellement protégé. Je ne vais pas vous faire un cours de droit ici, mais simplement pour vous rappeler que le Conseil constitutionnel veille à ce que, lorsque l'on prive quelqu'un de son droit de propriété, il y ait une procédure qui soit respectée et une juste et préalable indemnisation. On y reviendra peut-être plus tard. Cette protection constitutionnelle a aussi un pendant, qui est une protection aujourd'hui internationale, dans l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il existe, vous le savez peut-être, une organisation internationale qui est le Conseil de l'Europe. Et ce Conseil de l'Europe nous protège nos droits et libertés fondamentales. Et au titre de ce protocole numéro 1, les droits et libertés fondamentaux, dont le droit de propriété. Alors, les juristes se sont toujours posés deux questions qui vont cadrer un petit peu notre débat, mais on pourra s'en éloigner par la suite. De quoi peut-on être propriétaire? Est-ce que la propriété s'applique sur tout? Alors évidemment, en 1789, on était surtout propriétaire de son troupeau et de ses biens immobiliers. Je vois quelques notaires dans la salle. Ils ne s'étonneront pas que le Code civil de 1804 a été pensé pour la propriété mobilière et immobilière. Mais progressivement, le droit de propriété s'est étendu à des notions qui n'étaient pas connues en fait en 1789. Par exemple, aujourd'hui, les propriétés incorporelles. Le brevet, le droit d'auteur, qui sont des droits sur lesquels, en 1789, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir un droit de propriété. Non. Donc, de quoi suis-je propriétaire? Sur quoi s'applique mon droit de propriété? Vous voyez des défilés réguliers de femmes qui disent « mais j'ai le droit à l'avortement parce que c'est mon corps ». Oui, mais sauf que juridiquement, on n'est pas propriétaire de son corps. Vous ne pouvez pas vendre un poumon, vous ne pouvez pas vendre un organe comme vous le souhaitez. Donc le droit de propriété ne s'applique pas à tout. Et puis, bien qu'inviolable et sacré, le droit de propriété connaît des limites. On ne peut pas tout faire. Et très brièvement, on reconnaît par exemple la possibilité pour une cause d'utilité publique d'être expropriée de son droit de propriété. J'ai besoin de construire une autoroute, un pont, c'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt supérieur. Eh bien, moyennant une procédure contradictoire dans le détail desquels on ne rentrera pas, eh bien, vous pouvez être exproprié, comme c'était le cas des découvreurs de la grotte Chauvet, par exemple, moyennant une indemnité due par l'État. Voilà. Donc, le droit de propriété, pour nous, juristes, il est à la fois inviolable et sacré, c'est à la fois un droit naturel, c'est un droit qui est protégé par la Constitution et internationalement, et en même temps, c'est un droit sur lequel on s'interroge sur les limites. Il y a une anecdote que connaissent probablement tous les étudiants de droit, qui est la notion d'abus du droit de propriété. Je vous résume très rapidement un arrêt de la Cour de cassation. Je suis propriétaire d'un terrain, et donc, normalement, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. je plante des poteaux sur ce terrain uniquement pour embêter mon voisin, parce qu'en fait, il a un ballon dirigeable et lui, il atterrit sur le voisin d'à côté. Si je plante mes piquets, il ne peut plus atterrir sur ce terrain. Normalement, étant propriétaire de mon terrain, j'en fais ce que je veux. Et jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la pensée d'un imminent juriste qui s'appelle Josserand, on considérait qu'on ne pouvait pas abuser du droit de propriété puisqu'on en était titulaire. Et sous l'influence de la pensée de Josserand, eh bien, la Cour de cassation a considéré que si, je peux être propriétaire d'un droit, du droit de propriété, et être emmené à abuser. Et si j'utilise mon droit de propriété afin de nuire à autrui, eh bien, juridiquement, je commets une faute. Je n'ai pas le droit de planter des terrains dans le but exclusif de nuire à mon voisin. Voilà, donc le droit de propriété, il est à la fois inviolable et sacré. Il est constitutionnellement protégé et pourtant, je n'ai pas le droit d'être propriétaire de tout et pourtant, mon droit de propriété connaît des limites en droit positif. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce débat est renouvelé. Il est renouvelé sous l'aune de nouveaux impératifs qui sont la protection de l'environnement, qui sont l'égalité sociale, qui sont le fait que de nouveaux biens apparaissent. Et c'est, je crois, de cela dont nous allons parler ce soir. À savoir, au fond, est-ce que l'on peut donner des limites par l'impôt, notamment, au droit de propriété. La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, pardon, dans un arrêt de 2003, considère que, au-delà de 75%, l'impôt est confiscatoire et un impôt qui irait au-delà de 75% des revenus serait contraire à la Constitution, dans un arrêt célèbre que tous les juristes fiscalistes connaissent. Voilà un petit peu notre débat. Je ne sais pas, on va être honnête avec vous, on n'a pas eu énormément de temps pour répéter tous les trois. C'est un peu de manière improvisée qu'on va se lancer dans ce débat, après avoir planté ces quelques éléments juridiques de notions de droit de propriété. Il est temps maintenant de passer la parole aux économistes. Alain, tu veux peut-être poursuivre et voilà, tu as la parole.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle donc Alain Tranois, je suis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et j'ai écrit un livre qui est paru en 2022, pardon, l'année dernière, aux éditions Edith Jacob, un livre qui s'appelle « Le grand retour de la terre dans les patrimoines » et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et c'est un livre que j'ai écrit avec Étienne Vasmer, qui est professeur à l'université NYU à Abu Dhabi et aussi professeur associé à Sciences Po. Et donc, un certain nombre d'idées que je vais exprimer ici sont issues de ce livre. Certaines sont déjà contenues dans le livre, ou bien ce sont des prolongements. Et donc, la question, pour ma part, que je vais poser, c'est la question du droit de propriété du sol, et en particulier du sol urbain. Donc, la première chose qu'il faut peut-être indiquer, c'est qu'il y a une différence majeure entre le foncier et, je dirais, les autres biens qui sont produits, en particulier les biens comme une machine ou comme le bien comme du bâti. Quelle est la différence? Eh bien, cette différence, c'est que le sol n'a pas été produit. Le sol, alors hier, j'ai eu un contre-exemple lyonnais, grâce à monsieur, qui m'a rappelé que monsieur Perrache, au XVIIIe siècle, a aménagé avec son argent et l'argent d'autres lyonnais, il a aménagé toute la partie de la presqu'île qui va de la gare actuelle Perrache jusqu'à le confluent entre la Saône et le Rhône aujourd'hui, qui était, je crois, sans doute relativement marécageux. Et donc ça, c'est un exemple de sol construit. Et donc, je vais le mettre de côté, parce qu'à mon avis, si un sol est construit, à ce moment-là, il rentre dans une catégorie de biens qui sont produits. Et donc, le propriétaire a, à mon avis, effectivement, un certain nombre de droits sur quelque chose qu'il a effectivement produit. Par contre, l'immense majorité du sol est du sol qui n'a pas été produit, qui provient tout simplement d'un héritage géologique lointain. Et donc ça fait une différence, et ça fait une différence dans l'histoire de la pensée, pensée philosophique, pensée économique, pensée religieuse. Dès le, je dirais saint Thomas d'Aquin et même probablement avant, il y a des interrogations sur quel régime le plus juste ? Est-ce que c'est un régime de propriété privée ou est-ce que c'est un régime de propriété commune ? Et saint Thomas d'Aquin hésite. D'une part, il se dit que, je dirais, dans un monde de justice, dans un monde dit à l'époque de droit naturel, ça serait normal, puisque ce bien n'a pas été produit, eh bien, il soit partagé, il soit utilisé par tous les hommes. Il appartient à tous les hommes, et ça vaudrait évidemment pour le sous-sol. Et en même temps, il est partagé, et on voit qu'il y a déjà des arguments qui sont d'ordre un peu incitatif, du type « on s'occupe plus du sien que du commun ». Selon le proverbe, l'âne de la communauté est le plus mal batté. Il vaut mieux que chacun s'occupe du sien. La communauté crée des querelles. Et donc, saint Thomas d'Aquin est partagé entre, je dirais, certains avantages incitatifs de la propriété privée et le fait que, eh bien, sur le plan purement moral, il n'y a pas de grande je dirais, vertu à ce qu'il y ait une propriété privée, tout simplement parce que on ne l'a pas construit, on n'a pas consacré des ressources économiques à construire cette terre. Alors, ensuite, il va y avoir, au cours du XVIIIe siècle, la pensée lockéenne, par exemple, qui instille l'idée que la terre doit appartenir à celui qui la travaille. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est important pour tout le sol agricole. Mais on voit bien que pour le sol urbain, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement déterminant parce que, bien sûr, il y a aujourd'hui les travaux d'urbanisation, mais on voit bien qu'une fois ces travaux effectués, il n'y a pas de travail important à effectuer sur cette terre. Donc elle n'est pas véritablement travaillée. Et donc l'argument lockéen, ici, ne s'applique pas vraiment sur la terre urbaine. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas la terre agricole, c'est la terre urbaine qui représente en France 85% de la valeur totale des terres qui sont possédées en France. Donc vous avez rappelé, M. Marmoz, la Révolution française qui... Finalement, selon des historiens, eh bien, crée quelque part, au moins dans la Constitution de 1789, le mot fraternité n'existe pas, c'est liberté, égalité, mais on pourrait ajouter que le troisième mot qui correspond à l'esprit des constituants, c'est le mot propriété. Donc vous avez rappelé le caractère sacré et inviolable de la propriété. Vous avez rappelé également que ce droit de propriété est encadré, mais qu'il est en même temps protégé par le Conseil constitutionnel, et en particulier que le Conseil constitutionnel a évidemment réalisé, à la suite de tous les juristes, que si on taxe le fruit de la propriété du sol ou de tout autre bien, à partir d'un certain moment, eh bien, on peut atteindre, ça peut en tout cas remettre en cause le droit de propriété. Mais cette idée, et en particulier vous avez rappelé que le taux marginal égal ou supérieur à 75% est considéré comme anticonstitutionnel, mais il y a également une autre décision qui nous dit qu'un taux de 68% applicable à toute l'assiette taxable est anticonstitutionnel. Donc là, c'est la distinction entre taux moyen et taux marginal, et donc un taux moyen au-dessus de 68% considéré comme anticonstitutionnel. Alors, je vais vite pour retracer quelques éléments dans l'histoire de la pensée, pour dire que la personne qui va véritablement changer le débat, et changer le débat d'une façon moderne, c'est quelqu'un qui s'appelle Henri Georges qui est un journaliste, un homme d'affaires, un homme politique américain qui vit au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Et Henri Georges va être le premier à comprendre l'importance naissante de la rente urbaine. Henri Georges, il a travaillé à San Francisco, il a fait des affaires à San Francisco, il a fait faillite. Et il y a un passage fameux dans son livre qui s'appelle « Progress and Poverty » qui est publié en 1879. Et dans ce livre, Henri Georges soutient l'idée que toutes les dépenses publiques pourraient être financées par un seul impôt sur la terre. Et cet impôt reviendrait à taxer à 100% les revenus fonciers, c'est-à-dire que le loyer que le propriétaire perçoit sur le sol, eh bien, ce loyer serait entièrement capté, serait entièrement imposé par l'État. Donc vous voyez que 100%, c'est évidemment plus fort que les 68% du Conseil constitutionnel. Alors pourquoi Henri Georges pense que la propriété privée urbaine peut provoquer la pauvreté, puisque son livre s'appelle « Progress and Poverty ». Eh bien, il nous décrit en fait, à travers un passage célèbre qui s'appelle le passage qui concerne la savane, où il y aurait une savane complètement inoccupée, puis il y aurait un premier homme qui arriverait et qui suerait pour, bêcher la terre, déboiser, etc. Un deuxième homme arrive, un troisième homme arrive, etc. Et progressivement va se constituer une ville, et la valeur du terrain va monter, peut-être pas proportionnellement, mais elle va peut-être plus que proportionnellement, elle va monter au fur et à mesure que la population va venir s'installer sur ce terrain, qu'une ville va naître et que des échanges vont s'opérer. Et il est le premier, en fait, à décrire en 1879 ce qu'on appelle les effets d'agglomération. C'est-à-dire que, eh bien, la valeur d'un terrain urbain, c'est sa localisation. Ce n'est pas la richesse, évidemment, la fertilité de la terre, c'est sa localisation. Et cette localisation, la valeur de cette localisation, elle dépend de quoi ? Eh bien, elle dépend de toutes les aménités publiques et privées que vous pouvez atteindre, auxquelles vous pouvez accéder lorsque vous résidez à un endroit donné. Et cet endroit, il est évidemment unique. Alors évidemment, il peut y avoir beaucoup de gens qui habitent à cet endroit, s'il y a un immeuble de 30 étages qui habite. Mais tous vont profiter exactement des mêmes effets d'agglomération. Et donc, ces effets d'agglomération, ils sont maintenant bien compris. L'économie géographique, l'économie urbaine a travaillé sur ce concept d'effet d'agglomération. Ils ont travaillé pratiquement un siècle après. Donc Henri Georges, de ce point de vue-là, a été un économiste important, le fait de réaliser l'importance de ces effets d'agglomération qui font la valeur du terrain urbain. Mais il y a un passage que je vais vous lire d'Henri Georges qui dit pourquoi eh bien, cet enrichissement lié à la terre urbaine n'est quelque part pas moral. Le premier propriétaire, celui qui a le premier défriché, il peut s'être couché et avoir dormi pendant longtemps. Pourtant, il est riche, non pas de ce qu'il a fait, mais simplement de l'accroissement de la population. Donc c'est l'accroissement de la population, donc un effet purement externe, quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, qui va faire que eh bien, la rente foncière, le loyer auquel il peut louer ce terrain, ou en tout cas le sol sur lequel est assis le logement, eh bien, va monter et va, je dirais, l'enrichir. Et ce phénomène d'enrichissement, il concerne évidemment toutes les centres-villes de toutes les métropoles, il concerne aussi le centre des petites villes, mais à une moins grande mesure, parce que tout simplement les effets d'agglomération dépendent, finalement c'est un effet boule de neige lié à la population. Mais il y a un autre effet aussi qui est important et qui enrichit ce propriétaire du centre-ville, c'est les aménités publiques, ce sont les biens publics qui ont été financés et produits au cours des siècles. Pensez à Paris, pensez à la presqu'île de Lyon, pensez à tous les biens publics qui ont été, génération après génération, qui se sont déposés, qui ont été financés, qui sont entretenus. Ça peut être des biens culturels, ça peut être les transports publics, ça peut être des réseaux d'assainissement, ça peut être des équipements sportifs, des salles de spectacle, etc., etc. Et on pourrait allonger la liste, non pas à l'infini, mais enfin, il y a une très longue liste d'aménités publiques qui ont été financées par le contribuable local et quelquefois en partie par le contribuable national, et qui viennent enrichir ce propriétaire foncier et qui sont capitalisés dans le prix de la terre. Capitalisés, ça veut dire que non seulement le loyer sera plus élevé, mais comme la valeur du sol, c'est, si vous avez fait un peu d'économie, vous savez que la valeur d'un actif, c'est la somme actualisée de tous les revenus futurs, plus une valeur de revente à la période à laquelle on veut vendre ce bien, revendre ce bien, eh bien, cette valeur accrue du terrain due à toutes les possibilités offertes par les équipements collectifs, ça va se retrouver dans la valeur, une valeur additionnelle du sol. Et donc, il est quelque part, effectivement, juste qu'il y a quelque part un retour pour la collectivité. Il est quelque part juste qu'une partie de cette valeur qui a été créée par cette même collectivité, eh bien, retourne à la puissance publique locale, à celui qui l'a financée. Et cette idée a été, je dirais, poursuivie par les économistes, et il y a un théorème qui est appelé le théorème d'Henri Georges. Alors, Henri Georges n'avait peut-être pas compris l'importance des biens publics et l'importance des biens publics pour la valorisation du sol, mais en tout cas, ce théorème dit d'Henri Georges, auquel est associé beaucoup de noms en fait, d'économistes, mais il y a un nom d'un économiste célèbre qui est associé, qui est celui de Stiglitz, nous dit que eh bien, le financement des biens collectifs locaux qui ont simplement un rayon d'action spatial limité, parce qu'ensuite il y a des problèmes de mobilité, le coût de la mobilité intervient, eh bien, il est optimal de produire les biens collectifs locaux grâce à un impôt sur la valeur du sol. Donc, vous voyez que cette pensée économique a, je dirais, creusé le sillon georgien pour dire qu'effectivement, l'idée d'Henri Georges de taxer le sol urbain était une bonne idée, non seulement sur le plan peut-être de la justice sociale, mais là, il n'y a pas évidemment que les économistes, les juristes, les philosophes, les sociologues, tous les spécialistes, évidemment, les hommes politiques et tous citoyens a quelque chose à dire là-dessus. Mais également, ça, il y a un raisonnement économique en termes d'optimalité, c'est-à-dire qu'il y aura une allocation optimale des ressources, on atteindra finalement le bon niveau de la bonne qualité, la bonne quantité de services publics si c'est financé exactement par les biens collectifs locaux. Alors, en du temps, vous me direz, Monsieur le Président, quand est-ce que...
Comme vous voulez, on peut peut-être... Vous avez fini une première partie ou non, pour peut-être scinder, puis laisser notre collègue répondre, et puis...
Très bien. Je vais arrêter là.
Comme vous voulez. Hein.
Comme j'ai lu le livre et que je connais bien les arguments, je pense que c'est plus cohérent si vous allez jusqu'au bout.
D'accord. Ok. Écoutez, je vais continuer. Si vous voulez. Voilà, mais je voudrais pas.
On a une heure en tout.
C'est vrai qu'il est 6h30.
Il est 6h30. Voilà.
Bon. Alors, simplement pour vous dire que les disait d'Henri Georges, aussi profondes soient-elles, n'ont pas été suivies d'effet aux États-Unis, même s'il y a eu un très grand mouvement populaire. Son livre a été un immense succès, 2 millions d'exemplaires vendus, deuxième livre le plus vendu après la Bible pendant deux décennies aux États-Unis. Mais il y avait quand même une faille, c'est qu'effectivement, la taxation à 100% des revenus fonciers, c'est-à-dire des loyers, revenait quelque part à nationaliser sous le manteau la valeur du sol, le sol. Et ce qui est intéressant, c'est que en France et en Europe d'une manière générale, en Europe continentale, mais aussi en Grande-Bretagne, il y avait une autre idée qui se développait, qui n'était pas de taxer et donc d'agir d'une manière indirecte, mais c'est une idée qui est une idée beaucoup plus directe, qui est simplement de nationaliser le sol, et y compris le sol agricole pour beaucoup d'économistes de cette période. Bon, je peux parler évidemment des économies socialistes, mais ça vaut aussi pour Stuart Mill, ça vaut aussi surtout pour un économiste auquel on ne s'attendrait pas à ce qu'il défende une telle idée, c'est Walras. Walras, celui qui a conçu la notion d'équilibre général des marchés, eh bien Walras, sous l'influence majeure de son père, et qui lui-même avait lu les physiocrates, eh bien, va, je dirais, élaborer une théorie de la nationalisation des terres qui vont être rachetées par l'État, donc à la valeur de marché, et puis l'État deviendra propriétaire, et ensuite il louera les terres au plus offrant avec un régime d'adjudication. Et donc, si vous comparez la solution d'Henri Georges à l'époque, donc taxation à 100% des revenus locatifs, et la solution de Walras, où l'État devient propriétaire et perçoit des loyers, vous vous rendez compte que des loyers, il est propriétaire de la terre, mais la terre est soit mise en culture pour les terres agricoles, soit accordée aux plus offrants pour ceux qui veulent aménager une partie du foncier dans une ville, eh bien vous vous rendez compte que finalement, la valeur du loyer et l'impôt que va, dans le cas valracien et la valeur de l'impôt dans le cas georgien doivent être à peu près identiques. Et donc, quelque part, les solutions sont identiques, en fait. Quelque part, il y a simplement le propriétaire nominal qui change, mais vous avez une solution identique sur le plan économique. Et celui qui va réaliser ça, c'est un disciple d'Henri Georges, mais relativement lointain, mais lui considéré par ses pairs comme un grand économiste et encore aujourd'hui, qui s'appelle Harold Holting, qui est connu par tous les étudiants d'économie. Il y a beaucoup d'étudiants d'économie ici. Vous connaissez Harold Holting? Non. Bon, écoutez, demandez à vos professeurs, bon, c'est important. Mais simplement, Harold Holting va dire ben, les deux solutions, capter complètement la rente ou bien percevoir des loyers par une propriété publique, c'est la même solution. Et je développerai peut-être le fait que, effectivement, il y a ces solutions ont été mises, en tout cas la solution valracienne a été mise en application dans un certain nombre.
Alors moi, j'aurais déjà plein de questions à vous poser, en fait, mais ce n'est pas l'objet. Et on va peut-être laisser notre collègue réagir ou compléter en fonction de. Et puis après, on verra. N'hésitez pas dans le public, je vous le redis, hein, je ne sais pas, il y a plein de jeunes. C'est aussi fait pour vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je ne suis pas sûr que vous situiez tous les époques les rôles différents de John Locke, Saint Thomas d'Aquin, Stuart Mills. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions idiotes, hein, on est là tous pour apprendre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions.
Ok, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de discuter ici. Moi, je suis Anne-Laure Delatte, je suis chercheure au CNRS et rattachée à l'Université de Dauphine. Et je viens de publier un livre qui s'appelle « L'État droit dans le mur ». Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais, Alain Tranois et moi, à la limite, avons le même diagnostic, mais pas la même solution. Et donc, je vous propose de revenir sur ce que Alain vient de dire, mais en termes hyper simples, la façon dont moi je comprends les choses, parce que j'ai lu son bouquin, qui est sorti il y a un an et demi et que je vous conseille fortement. Moi, ce que je comprends, et donc vous allez voir que je le dis de façon très différente de la façon dont vous le racontez, le diagnostic de donc Alain et Étienne Vasmer, son co-auteur, c'est de dire, finalement, comment est-ce que la France peut faire pour conserver le contrat social français qui repose sur une protection sociale très importante, sur des services publics importants, d'accord ? On est tous contents de ne pas payer de ne pas payer quand on vient prendre des cours. Par contre, les parents payent les impôts, évidemment. Mais justement, je vais y revenir, mais de ne pas payer pour l'éducation, de ne pas payer pour l'hôpital public et même pour l'hôpital privé, parce qu'on est remboursé, et d'être largement protégé. Et comment est-ce qu'on fait pour garder ce système-là quand on est soumis à une concurrence internationale qui va complètement exploser au début, dans les années 90, mais surtout au début des années 2000. Comment est-ce qu'on fait pour garder ça? Et vous avez vu, quand je vous ai dit université, j'ai dit, bah oui, mais il y a les parents qui payent derrière. En fait, la difficulté de la France et d'un système, d'un contrat social aussi généreux que le nôtre, c'est qu'on est inséré dans un monde dans lequel la plupart des pays n'ont pas le niveau de prélèvement qu'on a. Donc en fait, on paye à la fois beaucoup d'impôts, les ménages et les entreprises, et on paye aussi des cotisations sociales. Donc notre coût du travail, il est plus élevé, souvent, que la plupart de nos concurrents. Mais il y a une raison pour ça. La raison, c'est que notre contrat social depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'être dans un pays qui nous protège. La question, c'est alors comment est-ce qu'on fait pour exister? Il y a des gens qui font pas partie de cette table-là et qui vont vous dire, bah en fait le contrat social, il faut le grignoter. En fait, c'est trop généreux. On vit sur un truc qui est plus possible dans le monde actuel. J'ai l'impression qu'Alain n'est pas de ce côté-là. Et en revanche, il essaye de trouver une solution qui est, bah, puisqu'on a besoin de ces prélèvements obligatoires, vous voyez, de ces impôts, où est-ce qu'on peut aller les chercher? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une révolution fiscale, en fait, pour essayer de changer ceux qui payent? Ce sur quoi on finance toute cette protection. Et en fait, l'idée, c'est que ce que disent Alain et Étienne dans leur livre, c'est attention, en fait, pour s'insérer dans cette concurrence internationale, c'est pas forcément une très bonne idée de taxer les salaires et les entreprises, en particulier les investissements, le capital des entreprises, parce que, en fait, c'est ça qui fait le coût de nos produits, qui fait qu'on n'est pas concurrent, et surtout, dans le fond, en fait, si je comprends bien, c'est aussi, et c'est ce qu'il vient de vous expliquer, en fait, on ne devrait pas taxer ce pour quoi on a vraiment travaillé, où on a un mérite, en fait, d'avoir récupéré, enfin, d'avoir produit de la richesse, mais en revanche, on a le droit de taxer ce qui nous est un peu arrivé par hasard. On appelle ça shortfall. En anglais, c'est ce qui vous tombe du ciel. C'est ça. Hein, ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça l'idée, c'est que bon, ce que vient de vous expliquer Alain, c'est que finalement. Et la conclusion de leur livre, enfin, c'est pas la conclusion physique, c'est dans le sens, tous les résultats, tout ça, ça amène sur l'idée que, ben finalement, si on a besoin de prélever beaucoup d'argent, est-ce que ce serait pas une bonne idée de le prélever sur la terre, sur le foncier, qui, il se trouve, prend de la valeur sans que vous n'y ayez contribué. Si je suis propriétaire d'un appartement dans une ville qui fait plein d'efforts pour améliorer les transports, pour avoir des infrastructures plus pratiques, etc. C'est pas moi qui ai fait un effort, mais ça va valoriser mon bien. Donc typiquement, si vous êtes à côté d'une bonne école, si vous êtes à côté du métro, tout ça, c'est des choses qui vont valoriser votre bien. Et donc ce que nous disent Alain Tranois et Étienne Weissmer, c'est, bah, alors, c'est ça qui est hyper important. Il y a deux principes qui doivent régir l'action publique. Ça, on vous le raconte dès que vous faites de l'économie publique, mais c'est important, essayer d'intégrer ça. Il faut que quand l'État fait quelque chose, il faut que ça soit efficace et juste. Il y a ces deux principes-là. Et ils nous disent, ben, ça, en fait, si on transférait des impôts, des entreprises, via tout ce qu'on leur taxe sur la production, leur revenus, enfin leurs profits et les salaires, parce que finalement c'est les entreprises, hein, qui payent les cotisations sur les salaires. Si on faisait ça et qu'on pouvait retirer, je crois que vous dites qu'on pourrait récupérer 60 milliards, donc c'est beaucoup, hein, 60 milliards. Si on pouvait récupérer 60 milliards. En retirant ces impôts-là et en les mettant sur les propriétaires de biens, en taxant vraiment la valeur du foncier. D'accord ? Donc, moi, j'habite à Paris, dans le 18e. Si ça prend... S'il y a une plus-value dans 10-15 ans parce que le maire du 18e a fait tout ce qu'il fallait, il a mis plein d'arbres, c'est super agréable d'habiter dans le 18e malgré la crise climatique, le réchauffement, etc., qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai créé ce truc-là, donc je devrais pas en profiter. Et en fait, il est juste de le taxer. Et donc, c'est efficace et juste. Efficace parce que juste, vous avez compris, c'est juste parce que c'est pas moi qui l'ai fait, et efficace parce que c'est moins prône à la fraude. En fait, qu'est-ce qui fraude globalement les impôts? C'est tout ce qui est tout ce qu'on peut cacher de l'État, et donc c'est essentiellement du capital mobile. C'est ce que vous pouvez aller mettre au Luxembourg, dans les Caïmans. Et ça, c'est là, pour le coup, Alain et Étienne participent à une grande tendance depuis 20 ans, qui est, puisqu'on a ouvert toutes les frontières et qu'on peut sortir son argent très facilement, même si aujourd'hui on a ouvert le secret bancaire, etc., mais enfin bon, ça a quand même été un peu la fête à l'optimisation fiscale au cours de ces 20 dernières années, puisqu'on peut faire ça, en fait, pour être efficace, il faut taxer ce qui est immobile. Et donc, ce qui est immobile, vous pouvez beaucoup moins frauder sur le foncier que sur des actions que vous pouvez aller mettre ailleurs.
Alors, merci pour cet éclairage.
Non, et puis surtout, il me semble qu'il y a un tout petit déséquilibre de temps, là, je vais reprendre. Moi, je trouve que je vous ai fait le résumé de ce que vient de nous dire Alain, dans mes termes à moi, et je trouve que c'est un bon diagnostic. En revanche, moi, je n'arrive pas aux mêmes conclusions. Et les questions que j'ai envie de poser, que j'ai envie de poser à Alain, et moi, j'ai quelques réponses dans mon bouquin, c'est d'abord, sur l'efficacité, est-ce qu'on est sûr qu'on peut complètement échapper à la fraude, même si... Bon, probablement, vous avez raison, hein, sur l'immobile, c'est plus facile. Mais il y a toujours une possibilité, il me semble, de créer des SCI, d'échapper. Enfin, il y a toujours des schémas fiscaux qui vous permettent d'échapper à ce genre de choses. Et au-delà, en fait, il y a un vrai enjeu sur les ultra-riches et les gens qui vont être capables d'avoir des propriétés à l'étranger, à New York, à Londres, etc., et qui ne seront pas taxés au même niveau que ceux qui ne peuvent pas. Donc sur l'efficacité et l'absence de possibilité de fraude, on peut probablement se poser la question. Et après, moi c'est plutôt sur la justice que je voudrais interroger ces résultats et ces conclusions. En réalité, on part du principe qu'il faut transférer une partie des recettes fiscales des entreprises vers ceux qui ne produisent pas. Mais est-ce qu'on est sûr que les entreprises produisent vraiment de la richesse? En fait, est-ce que toutes les entreprises sont dans une situation où tout ce qu'elles créent, toute leur valeur ajoutée, c'est le fruit d'un effort et pas du shortfall, comme tout à l'heure, c'est pas tombé du ciel? Pas complètement. En fait, si vous êtes en situation de non-concurrence, si vous êtes dans une situation où vous pouvez à peu près fixer vos prix comme vous voulez parce que vous avez très peu de concurrence, et il y a des secteurs qui sont comme ça, alors il n'y a pas de raison de les aider, ceux-là. Il n'y a pas de raison de ne pas les taxer. C'est-à-dire que ce que je voudrais juste introduire l'idée que taxer les entreprises, ce n'est pas forcément injuste et inefficace. Que si on part du principe qu'il faut taxer, à la limite, c'est juste de taxer ce qu'on n'a pas produit. Alors, remettons en question, réinterrogeons-nous sur qu'est-ce que les entreprises produisent et est-ce qu'elles sont toutes en situation vraiment de faire de la valeur ajoutée sur le pur produit de leur intelligence, des ressources humaines, etc. Il y a quelques grandes entreprises en France qui ne sont pas dans cette situation-là. Quelqu'un qui fait du transport maritime, il n'est pas du tout dans cette situation-là. Une grande entreprise française qui fait du transport maritime depuis quelques années et qui est capable de racheter la moitié du transport maritime international en Afrique, en Asie, parce qu'il a fait d'énormes profits depuis 2020. Il n'est pas du tout dans cette situation-là. Notamment en 2020, en fait, quand le Covid a commencé et qu'on s'est retrouvé dans des ruptures de chaînes de valeur, il y a des sociétés qui en ont hyper profité. Vous voyez, qui n'ont pas créé de la valeur parce qu'elles faisaient quelque chose. Et alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais je crois que c'est important de se dire, si on doit faire des transferts des entreprises vers les ménages, parce que c'est ça, en fait, concrètement, les propriétaires, bah, il faut être sûr que si on le fait pour les bonnes raisons, à ce moment-là, on le fait du côté des entreprises de cette façon-là. Et donc, prendre encore 3 minutes, en fait, moi, j'ai écrit un bouquin il y a 6 mois que j'ai publié qui s'appelle « L'État de droit dans le mur ». Attendez, je peux vous le donner. Voilà. Je l'ai fait en anglais. Voilà, je vais faire un petit peu de pub. Où justement je me pose, en fait j'ai le même diagnostic que Alain et Étienne, qui est, c'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour faire partie de cette concurrence internationale et en même temps pour protéger notre modèle pour des raisons politiques. C'est pas simplement économique, c'est que je pense que vous êtes pas mal à partager l'idée que si on remet en question ce contrat social, on va fragmenter la société, qu'on va avoir de plus en plus de polarisation, de violence, etc. Et donc, moi, je me suis posé les mêmes questions. Comment est-ce qu'on a réparti la charge fiscale entre les ménages et les entreprises ? Est-ce qu'on a fait payer plus les uns et les autres ? Depuis 20 ans, comment est-ce qu'on a financé notre système tout en essayant de rester concurrentiel ? Et moi, mes conclusions, elles sont, bah, pour le coup, pas exactement les mêmes. Mais parce que je ne me pose pas exactement la même question. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison. C'est qu'on ne se pose pas les mêmes questions de la même façon. Moi, mes conclusions, c'est qu'en fait, le taux d'imposition des entreprises françaises, il a baissé considérablement depuis 2000. Qu'en fait, si vous regardez le taux effectif, c'est-à-dire ce qu'elles payent vraiment, on a mis tellement de niches fiscales, on a fait tellement d'exemptions, tellement d'exonérations aussi de charges sociales, et là j'ai plein de graphiques dans le bouquin qui vont vous montrer ça, que finalement, en fait, ce transfert, on l'a déjà fait. Parce qu'il a fallu bien financer, continuer à financer, donc on a augmenté les impôts des ménages et on a baissé au fur et à mesure les impôts des entreprises. Est-ce qu'on se porte mieux ? Pas vraiment. Est-ce qu'on est capable de mieux s'intégrer dans la globalisation ? Pas vraiment. Notre compte courant, il est toujours déficitaire. Et on n'est pas les champions de l'innovation. Donc voilà, du coup, je vous invite à lire le bouquin, mais la conclusion, c'est que toutes ces questions-là, elles sont fondamentales, elles vont être fondamentales davantage encore avec la crise écologique qui va rebattre encore les cartes parce qu'on va avoir encore plus besoin de protection. Et donc la question qu'on pose, c'est qui doit payer ? Où est-ce que c'est juste et efficace de contribuer à cette protection ? Protection du contrat social français et face à la crise écologique.
Bon, vous voyez que le débat est posé. Ce n'est pas ce soir qu'on va arriver à répondre à toutes les questions. Il nous reste encore un quart d'heure. Je voudrais quand même qu'on réponde à quelques questions qui sont posées sur la tablette. Alors, certaines, je les pose ou je réponds moi-même, puis d'autres, je transférerai les réponses. L'entreprise de transport dont on parle, oui, c'est bien CMA CGM, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute, on l'aura tous reconnu. Donc celle-là, je réponds à la question.
Oui, juste une chose. J'ai vu dans les échos que ses profits sont revenus à la normale et les prix des containers aussi. Voilà. Je viens de Marseille, donc je suis d'assez près de la situation.
Vous êtes un supporter de CMA CGM.
Non, je ne suis pas un supporter, mais effectivement, j'avais des amis qui m'avaient alerté sur le prix des containers vers l'Asie qui a été multiplié par 30 au moment de la crise de la Covid. Et effectivement, là, il y a eu, je dirais, des surprofits, des profits liés à une rareté. Et donc, il y a des rentes de rareté. Et donc, ces rentes de rareté aussi n'ont pas, qui sont dues à la chance, mériteraient exactement le même traitement que celles qui sont dues à la rareté du du sol.
Le droit, parfois, juste une petite remarque de juriste, hein, le droit, parfois, organise la rareté. Hein. Quand on confère à un titulaire d'un brevet sur une invention, un monopole d'exploitation et un droit d'exploitation exclusif sur un médicament, sur une molécule de médicament, c'est bien parce que l'État souhaite, enfin les États souhaitent conférer une rareté et un monopole d'exploitation à une entreprise pour encourager la recherche. Alors, voilà. Autre petite question alors, que je trouve intéressante, donc je me permets de la poser, qui s'adresse sans doute à vous deux, mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas limiter la propriété dans le temps, c'est-à-dire taxer l'héritage à 100%? Ce qui est une bonne question, peut-être pour rebattre les cartes d'une génération à l'autre. Je ne sais pas si c'est une question de jeune ou pas, mais la question est effectivement intéressante parce que ça permet peut-être de répondre à une partie de la question. Je ne sais pas si vous voulez...
Je peux dire un mot, ouais, pour dire que, justement, je vous ai parlé un tout petit peu en quelques mots d'Harold Holting. Harold Holting, qui était un georgiste, disait ça peut être une taxe annuelle ou ça peut être une taxe qui est prélevée au moment de l'héritage. C'est-à-dire qu'on peut, je dirais, capitaliser toutes les taxes qui auraient dû être payées pendant une durée de vie, la vie de la personne qui vient de décéder, et ça sera autant de moins, sur ce que les héritiers n'auront pas. Donc on peut le payer.
La réponse pourrait être oui,
absolument.
Sur la taxe sur l'héritage, ce qu'on appelle l'impôt sur les successions, en France, on est loin de l'appliquer. Il y a un rapport du Conseil d'analyse économique qui est remarquable là-dessus. Et pour donner un contexte politique, en gros, 40% des Français n'héritent jamais. Et il faut être vraiment dans les 10% les plus riches pour hériter de quelque chose qui va vraiment être taxé. Parce qu'en dessous, vous héritez, vous héritez tellement peu que vous êtes en dessous de la barre. Et donc il me semble qu'il faut être dans les 10% des plus riches, des plus hauts patrimoines, pour être taxé. Et c'est vraiment à 97-98 que vous commencez à avoir des taux importants. Le problème, c'est qu'il y a tellement de façons d'y échapper que c'est justement... à partir de 97-98, qu'il y a un effondrement et que ces gens-là ne payent plus du tout d'impôts sur les successions. Donc, pour le dire simplement, si vous êtes un grand PDG et que vous avez bien optimisé vos impôts, vous pouvez tranquillement laisser toute votre fortune à vos enfants qui paieront beaucoup moins d'impôts que ceux qui sont juste en dessous. Alors voilà, ça c'est les conclusions du rapport, c'est hyper bien expliqué. Et pour vous donner un contexte politique... Évidemment qu'il faut le faire. Je ne sais pas s'il faut taxer 100%, mais en tout cas, même si on arrivait déjà à taxer 10%, ce serait super, parce qu'on n'en est pas là. Le rapport, il sort en 6 mois avant la dernière campagne présidentielle, il me semble. Et le moment où il sort, une semaine après, le Conseil d'analyse économique, ça conseille le Premier ministre. Hein. Une semaine après, Bruno Le Maire, ministre des Finances, explique dans Le Monde, sans du tout citer ce rapport, que c'est vraiment injuste l'impôt sur les successions et qu'il faut absolument le couper, il faut absolument le réduire, ça n'est pas efficace et ce n'est pas juste. Donc on est très loin d'un rapport, d'un débat vraiment rationnel sur le sujet.
C'était une bonne question donc, qui a été posée, et merci pour vos réponses. Une autre question que je vois passer... là aussi, j'imagine que c'est une question de jeunes, et comme j'aime bien les jeunes, du coup, je pose les questions des jeunes. Je suis un peu désolé pour les autres. Est-ce que ce système de taxation serait efficace sur le long terme, étant donné que les jeunes ont actuellement moins de chances d'accéder à la propriété? Je ne sais pas si la question est liée à votre analyse ou pas.
Donc, là, je peux dire juste un mot. C'est que les gens qui sont actuellement propriétaires, c'est qui? C'est évidemment des gens qui ont des revenus plus élevés, mais c'est aussi des gens qui sont plus âgés. Il y a à 68 ans, je crois qu'il y a 77% de propriétaires. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont construit leur parcours patrimonial sur la vie, mais ce parcours patrimonial qui fait qu'il y a 58% des Français qui sont propriétaires, malheureusement, c'est un peu comme l'histoire du modèle social français, il est en difficulté avec la montée des prix de l'immobilier, les prix du sol. Il est encore plus en difficulté avec cet effet de ciseau sur prix élevé et pas de compte possibilité, enfin, des possibilités amoindries de s'endetter à des taux intéressants. Et donc ce qui fait que, tout simplement, la jeune génération, la génération qui voudrait devenir primo-accédante, autour de 30 ans, eh bien, elle ne répond plus à l'appel simplement parce qu'elle n'a plus les moyens financiers. Et donc, je ne suis pas un partisan forcément de la propriété. Il y a des avantages à la location, des avantages à la propriété. Mais je constate simplement que ça fait partie des aspirations d'une grande majorité, d'une classe d'âge, de devenir à un moment donné propriétaire, simplement pour, en particulier, se protéger des propriétaires. Et donc, je dis que cette aspiration est maintenant de plus en plus difficile à obtenir pour les jeunes, et que justement, si il y avait, moi je dirais que le fait que, en tout cas, les jeunes n'auraient rien à perdre, parce que dans notre système également, la taxe qui est sur la valeur vénale des propriétés, eh bien, c'est une taxe nette des dettes immobilières. Actuellement, par exemple, sur l'impôt foncier, il est dû, même si vous commencez simplement à rembourser votre impôt immobilier, et donc, alors que votre actif net est encore relativement faible. Donc, les accédants, c'est 17% de la population française. Eh bien, les accédants, et en particulier les accédants, il y a beaucoup de jeunes, seraient avantagés. Ils paieraient moins d'impôts, en particulier ils ne paieraient plus dans notre système ce qu'on appelle les DMTO, c'est-à-dire les droits de transfert qui sont payés au moment de la transaction.
Une petite réponse, enfin une réponse
différente, bah non, là pour le coup, sur ce sujet.
Alors une autre question à laquelle je réponds, parce que c'est une question pour un juriste, alors je me l'approprie. Maintenant, vous mettez entre guillemets, c'est une question de jeune, pour être sûr que je réponde à votre question. C'est habile comme procédé. Une question à laquelle je réponds. Les biens et les services produits par les entreprises sont-ils assimilables à de la propriété privée? Eh bien, d'un point de vue juridique, je ne sais pas ce qu'en pensent les économistes, mais on ne peut être propriétaire que d'un bien. On ne peut pas être propriétaire d'un service. Donc, les services produits par les entreprises privées, non, ne génèrent pas de propriété, d'un point de vue juridique du terme. Alors, en revanche, les biens produits par une entreprise, oui, on exerce un droit de propriété dessus. L'entreprise en est propriétaire tant qu'elle ne les a pas vendus. Et en revanche, une fois que l'acquéreur a acquis le bien, il en est devenu propriétaire. Mais d'un point de vue juridique, je ne peux pas être propriétaire d'un service. Voilà. Je ne sais pas si ça apporte d'autres commentaires, mais vous avez un point de vue de juriste sur cette remarque. Une autre question. Alors, c'est elle qui est marquée « question de jeune », entre guillemets. Hein. Donc, je vous la livre en tant que telle. Si l'imposition a vraiment baissé sur les entreprises depuis 2000, comment expliquer que 70% de la valeur ajoutée revient aux salariés, masse salariale, impôt sur le revenu? Cela signifie-t-il que les entreprises portent bien la charge? Et donc, où va l'impôt? Deuxième question, la propriété privée ne sert-elle pas à garantir la production et éviter la fuite de capitaux et la délocalisation? Je ne sais pas si vous avez un avis éclairé sur cette question.
Regardez, ça c'est sur ce graphique, vous avez le taux effectif net payé par les entreprises. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux termes importants, effectif et net. Effectif, c'est ce qui est vraiment payé, donc c'est la différence entre le taux annoncé, affiché, qui est de 25% aujourd'hui sur les profits, il était de 33% jusqu'à 2007. C'est la différence entre je suis censé payer 33% sur mon profit, est-ce que je paye vraiment? Et en fait, il y a tellement d'exemptions et d'exonérations qu'on paye jamais, que les entreprises ne payent jamais 33%, ni les impôts de production, ils ne les payent pas entièrement. Et ça, c'est le effectif, et le net, c'est que j'ai retiré les subventions qui sont reçues par les entreprises. Mais ça, c'est relativement stable. Mais du coup, ça vous dit combien payent vraiment les entreprises une fois qu'on a retiré ce qu'elles ont reçu de subventions d'aide publique. Et en fait, c'est intéressant parce que la France, là, elle est le pointillé foncé qui baisse depuis 2000. Alors, vous voyez qu'on était les plus hauts En fait, là, j'ai comparé à des pays comparables de l'Union européenne. Donc, je n'ai pas mis le Luxembourg et l'Irlande parce que ce n'est pas comparable. Ils n'ont pas du tout le même système fiscal que nous. Et vous voyez qu'en fait, on a baissé ce taux effectif net des entreprises. Il n'a pas arrêté de baisser depuis 2000. Il baisse de 1,3% par an à comparer à une augmentation chez nos voisins de 0,8%. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on arrive dans la moyenne européenne aujourd'hui. Donc, fun fact, on n'est plus un pays qui surimpose ses entreprises. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. Le graphique le dit. Après, on n'est pas non plus en dessous. Hein. On est toujours on est dans la moyenne, vous voyez, des autres. On est légèrement au-dessus. Après, on n'a pas le même système de protection sociale et d'éducation et d'hôpital gratuit. On est beaucoup plus généreux que la plupart de nos voisins. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, où vont nos impôts ? La question, c'était où vont nos impôts ? Eh bien, une partie... en fait, les entreprises ont payé moins d'impôts, donc les ménages ont payé plus d'impôts au cours des 20 dernières années. Ça s'est traduit à la fois dans la TVA, par la TVA et par l'impôt sur les revenus, très légèrement par un impôt sur les patrimoines, très très léger. C'est plutôt sur les revenus via notamment CRDS, CSG et TVA. C'est comme ça que ça... Donc, où vont nos impôts ? En tout cas, c'est les ménages qui ont pas mal payé ces dernières années. Et c'est allé... ça va toujours au service public et à la protection sociale, qui donne une impression de détérioration. Mais là, vous avez une explication qui peut être que les besoins augmentent et les moyens sont à peu près constants.
Voilà, il est 19h. Vous voyez qu'en une heure, on a eu à peine le temps d'effleurer le débat. Beaucoup de questions sont posées, on n'aura pas eu le temps d'y répondre, mais je crois que vous avez eu un premier aperçu de ce débat. Je vous remercie. Je remercie aussi nos deux intervenants et j'espère que ça vous aura donné l'envie pour les jeunes de faire de l'économie ou du droit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.